Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. L'émission, vous avez la parole sur Africa Radio. Aujourd'hui, vendredi, dans le JDA, c'est la libre antenne. C'est vous qui faites le sommaire. Nous reviendrons notamment sur la polémique autour du remède malgache. Certains d'entre vous veulent aussi parler du procès de Vital Kamerhe qui s'est ouvert lundi en République démocratique du Congo. Ou encore, nous parlerons également des violences en Guinée et des manifestations, notamment dans la ville de Koya. Pour participer, composez le 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00. Mais d'abord, nous ouvrons bien sûr cette émission avec vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour, j'arrive pas à participer à l'émission. Vous allez m'exprimer sur la situation du Sénégal, la décision prise par le président de la République. Je vois que mes compatriotes sont assez amers à l'égard de ces confréries que moi j'appelle féodalité, parce que c'est des féodalités qui sont dignes de celles qui sont connues au Moyen-Âge ailleurs. Mais le problème n'est pas au niveau des marabouts. Le problème est au niveau du politique d'abord, qui essaie d'exploiter ses confréries, qui essaie de politiser, qui en fait son fond de commerce et finalement ça devient dangereux pour tout le monde. Et pour le régime lui-même, et pour les marabouts, et pour les masses. C'est devenu dangereux parce que aujourd'hui, les politiques n'arrivent même plus à faire respecter la loi. Il n'y a plus d'autorité. L'autorité est complètement affaiblie. Les masses qui suivent ces confréries aujourd'hui n'ont qu'une seule autorité, c'est-à-dire leurs guides religieux. Ces guides religieux sont entretenus, nourris par la même classe politique. Voyez comment le serpent est en train de se mordre la queue. Donc nous, on n'est pas sortis de l'auberge, comme on dit.
Bonjour Stéphanie, bonjour Télé-Africa Radio, bonjour l'Afrique. S'il faut vivre avec le Covid-19, je pense que il n'y a plus de débat sur la décision prise par Macky Sall au Sénégal pour ouvrir les mosquées et autres. Et comme ça se passe aussi ailleurs dans la sous-région. Parce que personne ne sait jusqu'à quand on va finir cette pandémie. Le professeur Didier Raoult a accordé une interview sur un média là, dernièrement. Là. Il avait déclaré que le Covid-19, la pandémie est en train de terminer. Donc moi je pense que chacun de nous doit être responsable de ce qui concerne sa santé. Donc il peut aller dans des mosquées partout, mais on se protège avec les masques et tout ce qu'il faut pour concernant les gestes barrières, c'est tout. Sinon, jusqu'à quand on va rester confiné sans vivre. Donc moi, je pense que ce soit les opposants ou ceux-là qui disent que non, Macky Sall est influencé par les religieux, ça n'a plus raison d'être. La réalité est que chacun doit prendre ses responsabilités et vivre avec le Covid en prenant des mesures qu'il faut pour éviter la propagation et la contamination.
Oui, moi, je voudrais quand même dire quelque chose sur l'arrestation de Gbagbo Iblé-Goudé, quand même. J'aimerais savoir si Ben Soudan, même si elle n'a pas des oreilles, elle peut quand même avoir les yeux pour voir. Alors, tout ce qui se passe, comme le meurtrier, là, entre Soro et Ouattara, l'histoire de IB ou bien de Tagro, tous ces trucs-là, pourquoi Ben Soudan ne peut pas laisser les deux-là libres? C'est-à-dire Gbagbo Iblé-Goudé, la liberté, ne peut pas leur donner la liberté. Pourquoi?
Chers amis de la radio africaine, bonjour. Je vous appelle concernant le mandat sur Guillaume Soro. Moi, je ne suis pas ivoirien, je suis de la République démocratique du Congo. Mais le plus grand regret, c'est moi, à jusque quand l'Afrique sera manipulée. Tout le monde, même qui est enfant, savent très bien que la guerre en Côte d'Ivoire, c'est la France qui l'a menée. La France a été jusque dans le palais présidentiel pour soutirer l'ancien président Laurent Gbagbo. Et voilà parce qu'aujourd'hui, Soro ne sert plus leurs intérêts et Soro devient accusateur. Et Soro est sacrifié. Et moi, ce que je trouve vraiment désolant, ceux qui sont au pouvoir à Abidjan, qui croient que le fait de lâcher Guillaume Soro, le fait de se diviser avec Guillaume Soro va servir leurs intérêts. Moi, je pense bien que l'avenir va nous donner raison, parce que la France est en train de nous rouler toujours dans la pâte, la farine. C'est toujours leurs intérêts et non les intérêts des Africains, et non le dialogue en Afrique, et non la paix en Afrique. Merci, Mac de la raison.
Oui, cher ami de JDA et Madame Atman, bonjour. Je me permets d'intervenir encore, c'est pour ce qui concerne le procès de Vital Kamerhe. Je pense que Vital Kamerhe et ses avocats ne sont pas réalistes et cohérents avec eux-mêmes. Les faits qui lui sont reprochés sont extrêmement graves. Je pense qu'il ne peut pas profiter d'une mise en liberté. Il faut qu'il soit conséquent, qu'il sache qu'il sera condamné lourdement. Ça ne sert à rien de poser les demandes de mise en liberté qui ne pourront pas aboutir, qu'il attende le procès au 25 et puis c'est tout. Et puis il est arrogant et tout. Je regrette, on ne peut pas se réjouir des malheurs de quelqu'un, mais il doit payer les actes qu'il a posés, hein. Dieu donne à son goût bien des choses à tous. À très bientôt, que Dieu bénisse tout le monde. Merci, au revoir. L'état de droit doit régner au Congo. Merci, à très bientôt.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages, pour intervenir en direct, hein, à présent dans le JDA, il faut composer le 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, c'est la libre antenne. Dans un instant, nous parlerons de la Guinée et des troubles qui ont lieu mardi, des troubles qui ont conduit à la mort de 7 personnes. Mais nous ouvrons d'abord cette émission avec l'actualité congolaise et le procès de Vital Kamerhe, désormais peut-être, j'allais dire, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi. On en parle avec Kevin depuis Lubumbashi. Kevin, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Bienvenue hein, Kevin dans le JDA. J'imagine que vous avez suivi la retransmission télévisée hein, de cette audience hein, de lundi.
Absolument, incroyable mais vrai. De voir un directeur qui fait la une des journaux dans l'affaire des vols. En tout cas, c'est un Congo nouveau. C'est ça même les changements que nous avons beaucoup chanté. Nous voulons les changements, c'est ça même. En fait, moi, je ne voulais pas m'exprimer si oui ou non Kamerhe a volé. Mais je sais au moins une chose, que la RDC compte parmi les pays pauvres. Mais dans nos bouches, qu'est-ce qu'ils se disent? Nous sommes un pays potentiellement riche. Et la forêt équatoriale, les minerais, tout ça. Tout cet argent part dans les poches des gens, surtout de nos politiciens. Même si le procès de Kamerhe ne marquera pas la fin de toutes ces impunités, mais c'est déjà un signal fort pour le Congo. Qu'est-ce que les politiciens font aujourd'hui? Ils détournent, ils envoient leurs enfants à l'étranger avec des belles appartements, dans de bonnes écoles, et vous écoutez. Tel pays est devenu premier producteur mondial, mais avec l'argent de la RDC. Il est temps de mettre fin à tout ça. La politique est devenue aujourd'hui un moyen de s'enrichir vite. Personnellement, je pensais que c'est tous les Congolais qui seraient contents. Mais malheureusement, non, j'ai entendu les propos de beaucoup, rien que des propos tribales. Aujourd'hui, si nous parlons de la rivalité, les grands rivaux de Félix, ça peut être l'FCC, le PPRD. Même si je sais que la justice est allée loin en laissant les gens qui ont dirigé ce pays pendant 18 ans, c'est pour dire quoi, Stéphanie? Si le cerveau du président est fait comme ça, donc les autres seront jugés sans pitié. D'ailleurs, il y a aussi John Tumba, ministre de l'enseignement professionnel, toujours attrapé dans les mêmes affaires. Je pense que la justice va mollo. Ceci doit être vraiment un exemple pour toute l'Afrique. Notre Afrique est freinée pour ça. On n'est pas dire que non, les Européens nous prennent pour des cons. Après, non, le problème, c'est nous-mêmes. Moi, je ne comprends pas les politiciens. Ils sont les premiers à être bien payés. Et c'est eux qui volent. Quelle honte, vraiment. Je dis vive la justice congolaise et vive le président Tshisekedi.
C'est très clair. Merci beaucoup, Kevin, de nous avoir appelé pour nous parler de ce procès de Vital Kamerhe qui a été renvoyé au 25 mai prochain. Kevin y voit un bon signal envoyé pour l'état de droit en République démocratique du Congo. Je demande à Jean-Jacques de patienter un petit peu pour parler de la Côte d'Ivoire dans un instant. Mais avant cela, direction la Guinée, retrouver Mamadou. Mamadou, bonjour.
Bonjour Madame Stéphanie et bonjour à vos millions d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment partout dans le monde. La radio Africa qui nous parle et qui parle de nous.
je vais reprendre le slogan, mon cher Mamadou, et je vous créditerai. Vous vouliez parler, Mamadou, des violences qu'il y a eu en Guinée, notamment du côté de Koya. Violences, échauffourées qu'on connaît quand même, causé la mort de cette personne.
Oui, madame, avant d'abord de commencer, je m'incline pour tous ceux qui ont perdu la vie lors de cet affrontement entre forces de l'ordre et manifestants qui a coûté d'abord la vie de 7 personnes et 19 d'ailleurs blessés. Donc, madame Stéphanie, moi je pense que depuis que la pandémie a déclaré, c'est-à-dire dans le monde entier, monsieur Alpha Condé toujours risque la vie de la population guinéenne. Parce que depuis le 22 mars, imaginez, malgré la pandémie en Guinée, l'existence de la pandémie en Guinée, il a toujours, organisé ses élections législatives et référendaires, encore qui a coûté encore la vie des autres Guinéens, même pas d'enquête. Depuis ça, ils n'ont rien parlé de ça. Après ça aussi, vous avez vu le FNDC, toujours il profite à cette pandémie, c'est-à-dire pour kidnapper les membres de FNDC. Après ça aussi, vous avez vu la manière dont, c'est-à-dire, il fait avec cette pandémie. À Koya, vous avez vu ce qui s'est vraiment passé. Mm-hmm. Il y a eu 7 morts.
Oui.
Il y a eu vraiment 7 morts et c'est les forces de l'ordre censées à protéger, madame, c'est-à-dire censées à protéger la population. C'est même qui tire sur la population, vous avez dit, il y a eu 7, si je me rappelle, il y a eu 7 morts et 19 blessés, une femme enceinte, une femme de 6 mois, madame.
On entend bien, Mamadou, finalement aussi, que ces violences expriment un ras-le-bol. Est-ce que vous attendez à ce qu'une enquête soit faite? Est-ce que vous attendez à ce que des policiers soient sanctionnés? On se souvient, c'était durant les manifestations contre le double référendum, Alpha Condé avait dit que les policiers coupables seraient sanctionnés. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, madame, moi je pense que ça c'est impossible parce que depuis à l'arrivée de M. Alpha Condé, il y a toujours des théories, mais il n'y a pas d'enquête. Depuis 2010, il y a toujours des théories, mais c'est comme ça, à chaque fois, il nous dit on va faire des enquêtes, mais vous avez vu encore le 22 mars, lors des élections, tous ceux qui ont perdu la vie à Zérékoré, ils nous ont dit on va faire des enquêtes, mais ça n'a pas porté de fruits. Et sur les 7 personnes encore qui sont mortes, ils nous ont parlé des enquêtes, mais je pense que ça va pas porter beaucoup de fruits. Madame.
Portez beaucoup de fruits, nous dit Mamadou. Excellente journée à vous, Mamadou. Prenez soin de vous. On continue à parler de ces violences en Guinée dans quelques instants avec Abdourahman et Ibrahim. 33 1 55 07 58 00. Si vous voulez participer, 33 1 55 07 58 00. Abdourahman, bonjour. Ah, allô Abdourahman, vous êtes
oui,
là
madame.
Oui, bonjour Abdourahman.
Oui, je suis là, madame. Bonjour, madame.
Depuis Dakar, au Sénégal, ça va très bien et vous-même?
Oui, ça va.
Bon, vous avez entendu Mamadou sur ces violences et le ras-le-bol un peu des Guinéens. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je suis d'avis avec Mamadou. Depuis l'avènement d'Alpha Condé à la tête de l'exécutif guinéen, nous avons assisté à beaucoup de violations massives des droits de l'homme. Et je pense que depuis 2010 jusqu'à nos jours, rien n'a été fait comme enquête pour pouvoir élucider les acteurs qui ont tué les pauvres citoyens pour pouvoir les arrêter. Et moi, je pense que Alpha Condé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir de 2010 jusqu'à nos jours, que je peux le qualifier ainsi, qu'il a commis crime contre l'humanité. Car jusqu'à nos jours, 200 personnes ont été tombées sous le régime de Alpha Condé. Je salue aussi la décision du FNDC de l'avoir porté plainte à la CPI. Car pour moi, la CPI est la seule institution habilitée à juger et à enquêter et pour pouvoir arrêter ceux qui ont commis cette trouble en Guinée avec beaucoup de lots de morts et de dégâts matériels. Regardez aujourd'hui, en Guinée, on manifeste pour avoir de l'électricité, on vous dit. On manifeste pour qu'il y ait l'élection à bonne date, on vous dit. On manifeste pour qu'il y ait de l'eau, on vous dit. Moi, je pense qu'il faudrait que les Nations Unies, l'Union européenne et la CEDEAO s'investissent davantage pour pouvoir aider les Guinéens à se débarrasser du pouvoir Alpha Condé, comme il est à la fin de son dernier mandat. Moi, je pense qu'il est nécessaire parce que nous avons trop souffert. Un pays où on tue des femmes, on tue des adolescents. C'est la première fois que j'avais vu et de ça de mon vie. Et je pense que là, il est impératif que la justice internationale enquête la défi, car en Guinée, nous n'avons plus de justice et pour pouvoir enquêter et arrêter les assassins depuis 2010 jusqu'à nos jours, madame Stéphanie.
C'est très clair. Merci beaucoup, Abdourahmane. Abdourahmane, vous avez confiance quant à l'aboutissement de la plainte déposée par le FNDC à la CPI ?
Ouais, je suis sûr et certain que cette plainte va aboutir parce que, vu que les crimes qui ont été commis, il y a acheté des vidéos et d'interviews qui ont été arrêtées au niveau de la Guinée, je pense que la tâche serait facile à la CPI d'enquêter la défi pour pouvoir élucider et arrêter les criminels, quoi, les criminels du pouvoir guinéen. Le président Alpha Condé fait partie parce qu'il est le premier magistrat du pays et il est le premier à ordonner les forces de l'ordre à descendre avec des armes dans les quartiers pour pouvoir tuer sa population.
Merci beaucoup Abdourahmane de nous avoir rappelé d'avoir participé à cette libre antenne. Excellente journée à Dakar. Au Sénégal, je demande à Jean-Jacques qui veut nous parler de la Côte d'Ivoire de patienter un peu et à Vanda également, on en reviendra avec Vanda sur la polémique autour du remède malgache, mais on peut-être le clore le sujet guinéen avec Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour tous les auditeurs.
Bonjour Ibrahim, dites-nous tout.
Je vais ajouter juste mon petit sel. Je voulais dire que ça n'est pas vraiment surprenant d'assister à toutes ces violences-là, parce que Alpha Condé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a continué avec la pratique qui avait déjà été posée par ses prédécesseurs. C'est que c'est toujours pareil, les manifestations sont réprimées vraiment avec violence inouïe. Alors, les responsables, c'est qui ? Les responsables, c'est bien entendu le pouvoir exécutif, parce que pour encadrer une manifestation ou bien tout simplement pour riposter, je ne sais pas pourquoi il y a des balles réelles il y a des munitions en balles réelles dans des armes. Il y a bien entendu des gens qui ont bien mis ça dedans. Alors pourquoi en Europe ils arrivent à cantonner, à repousser les manifestations, à les encadrer sans pour autant l'air tiré dessus à balles réelles. Alors, chez nous, c'est récurrent. Au-delà même de la Guinée, c'est presque pareil dans toutes ces nouvelles démocraties dans les pays francophones. En Afrique, parfois par actes isolés, parfois des actes comme ça lors des manifestations. Moi, je dis que c'est juste une question de manque de formation de nos recrues. Manque de formation au niveau de formation civique et citoyenne. Vous voyez ? Donc, c'est comme disait Thomas Sankara, un militaire sans formation politique n'est qu'un criminel en puissance. Ces gens-là, ils ignorent en réalité qu'ils sont juste les dépositaires de ces armes-là. Ce n'est pas à eux. Donc, comment nous payons nos impôts et nos impôts qui servent à payer les armes pour nous protéger, et au contraire, ça sert à nous tuer. Et ils ne sont pas éternels, ces dirigeants-là du pouvoir exécutif. Donc, je pense que là-dessus, les sociétés civiles doivent vraiment travailler là-dessus, doivent entreprendre des contacts avec le pouvoir exécutif pour vraiment trouver une solution.
La formation au maintien de l'ordre, c'est ce que vous dites, hein,
oui,
Ibrahim.
Bien sûr. À la plainte au niveau de ces pays, franchement, je ne vais pas être naïf, quoi. Voilà, je crois que vous n'êtes pas non plus naïf, Stéphanie, tous les autres éditeurs. Vu ce qui s'est passé au niveau du procès de Laurent Gbagbo, nous avons compris que ça n'est pas aussi aisé d'épingler comme ça, de l'incriminer pour des faits, des crimes contre l'humanité. Voilà. Maintenant, pensant qu'on va arrêter ces flics-là qui ont tué, non, ils sont protégés, ils sont là pour les régimes. Voilà. Tout ce que Merci. Je voulais dire, on doit juste réfléchir sur comment maintenir l'ordre sans vraiment en arriver à tuer quoi, nos populations.
On a bien compris, Ibrahim. Je signalerai quand même que on l'a vu, hein, même en France, hein, parfois le maintien de l'ordre, notamment avec les manifestations, hein, des gilets jaunes, hein, on a vu quelques gens éborgnés, notamment, hein, parce qu'on appelle les flashballs. Bon, c'est toute proportion gardée, mais voilà, c'était pour faire une comparaison. Excellente journée à vous, Ibrahim. Merci de votre participation. Une ligne se libère si vous voulez intervenir. 33 1 55 07 58 00. On va écouter, je demande à Vanda de patienter encore un peu. On écoute Jean-Jacques qui va nous parler de la Côte d'Ivoire. C'est ça ? Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour madame.
Bonjour Jean-Jacques. Vous avez entendu un message hier sur le répondeur qui vous a fait bondir, si j'ai bien compris.
Voilà, donc oui, j'écoutais au moment où j'appelais, j'écoutais une dame qui faisait un direct et qui parlait de M. Sow et de M. Dramane Ouattara. Enfin, pardon, Dramane Ouattara. Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Voilà, d'accord. Et qui parlait, qui disait qu'il faudrait que Sow soit président de la République de Côte d'Ivoire. Et que Sow n'était pas seul à Sow n'est pas tué les Ivoiriens. Je ne parle pas de Gbagbo. Gbagbo pour Gbagbo, tout le monde le sait. Le monde entier sait que Gbagbo est libéré. Gbagbo est acquitté avec Ben Goudé. Mais Ben Sow ne voit rien. Bon. Mais la dame me disait il faudrait que M. Sow soit président de la République de Côte d'Ivoire et que Sow n'a rien fait. Mais il faut accuser que M. Ouattara. C'est vrai, moi je le disais aussi. Je dis que Sow est accusé. Au lieu de celui qui ne dit rien consent. Si Sow est accusé par M. Ouattara, pourquoi Sow ne dit rien? Pourquoi il ne dit rien sur Ouattara? Nous voulons savoir, les Ivoiriens veulent savoir qui a fait quoi. Qui a fait quoi pendant la guerre? Qui a fait quoi? Qui a tué? C'est pas en étant président de la République de son pays qu'on peut rendre service à ce pays-là. On peut être balayeur, on peut être tout. Alors la dame disait, oui, si Sow est président, il peut libérer Gbagbo, il peut libérer Blé Goudé. Mais Sow peut libérer maintenant Gbagbo et Blé Goudé. Je le dis, parce que Sow peut aller à l'AIE ou bien écrire, je ne sais pas... dire toute la vérité que ce n'est pas Gbagbo qui a fait ça, mais c'est nous, et c'est Ouattara qui a fait ça. Madame, excusez-moi, mais franchement, je viens d'attendre aussi les camarades de d'autres pays, c'est-à-dire les compatriotes africains, qui ont lancé des cris de cœur. Qu'est-ce qu'ils font, ces présidents africains-là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous font? Pourquoi ils ne peuvent pas arrêter de tuer les gens? Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, on a des larmes aux yeux. Moi, vraiment, je vous dis que si vous me voyez, je suis déjà maigre. J'étais maigre de naissance. Mais je deviens encore plus maigre parce que je ne mange pas du tout.
Prenez soin de vous, mon cher Jean-Jacques. Il faut manger, mais on entend bien que cette situation vous pèse. D'ailleurs, puisque vous évoquez ces pays, une audience importante doit se tenir dans quelques jours pour examiner l'appel de la procureure Fatou Bensouda dans les dossiers Gbagbo et Blé Goudé. Merci Jean-Jacques de votre contribution. 33 1 55 07 58 00. Je demande à Fofana de patienter un peu, déconfiner aussi. On va retrouver Vanda. Vanda, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Vanda, bienvenue dans le journal des auditeurs. Je voulais revenir vous sur la polémique autour du remède malgache. Le président malgache, Ange Rajouel, estime que son remède est dénigré parce qu'il vient d'Afrique.
C'est complètement ça, je pense. C'est étonnant de voir qu'il y a autant de morts aux États-Unis et qu'il n'y a même pas une personne qui a été déléguée pour aller voir ce qui se passe à Madagascar pour essayer de sauver les Américains. Je trouve ça grave. Il y a au moins 90 000 morts. Et personne réagit, même le peuple américain. Pourquoi il réagit pas? Parce qu'on a vu des vidéos sur un docteur noir qui essayait de sauver des gens dans la rue, enfin qui essayait de sauver un peu tous les SDF parce qu'il y en a des tonnes. Et il s'est fait même arrêter par l'État, par les policiers, parce qu'en fait, je sais pas, il n'avait pas le droit ou ils ont trouvé que c'était pas normal ce qu'il faisait. Et voilà, on se demande vraiment, est-ce que les Occidentaux ils veulent aider les victimes, ou est-ce qu'ils veulent encore essayer de rétablir leur
vous comprenez pas, en fait, c'est pourquoi il n'y a pas de pays pourquoi il n'y a pas de pays occidental, oui. J'imagine l'Italie, la France, et donc vous avez cité les États-Unis qui s'intéressent au Covid organique.
C'est eux qui ont le plus de morts en ce moment. C'est une hécatombe, quoi. Et pourquoi on s'intéresse? D'accord, ok, le vaccin, il faut qu'il travaille dessus. Chacun son choix de médecine. On est d'accord, l'OMS et tout ça, ils sont pour tout ce qui est vaccin. Mais en attendant, pour soulager les gens, quand on a vraiment un problème, on cherche la première solution, la chose qui est efficace. Je ne vois pas pourquoi un président, il va aller inventer des choses. Il est quand même président d'un pays, donc il a des responsabilités. Il ne va pas aller sortir un truc aussi bête. Juste pour se montrer, quoi. C'est vraiment qu'il y a un truc réel là-dedans. Donc pourquoi on ne fait pas ces choses-là? Pourquoi on ne va pas prendre ce médicament en attendant?
Parce que et l'efficacité n'a pas été prouvée scientifiquement, alors même si Ange Rajouel
dit que ça marche. L'hypothérapie, tout ça, c'est aussi des discussions qu'ils ont tout le temps. Ils veulent supprimer l'homéopathie. Enfin, se dire, ça fait des années qu'ils en parlent.
En France, ça a été déremboursé depuis quelques mois.
Ouais, mais bon, pas encore totalement, parce que la preuve, on se fait encore rembourser l'homéopathie. Donc, c'est toujours des débats qui sont en suspens. Mais en même temps, il y a toujours des gens qui se font soigner médicalement, qui se font soigner par les plantes. Donc là, je veux dire, il y a des gens qui meurent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui meurent. Donc après, c'est pourquoi il y a toujours l'argent qui est dedans, pourquoi c'est pas une étape qui repart à zéro, et vraiment, s'il y a vraiment une vraie volonté de sauver les gens, normalement, il devrait pas y avoir ce genre de discussion. Moi, je pense que je vois même pas le cœur des présidents. On parle des présidents africains et tout ça, mais il faut aussi parler des présidents occidentaux. C'est quoi leur cœur là-dedans? Ils veulent vraiment sauver leur people? Ou alors ils veulent se faire de l'argent et encore une réputation et encore je sais pas quoi. Ça, c'est la question. Parce que franchement, là, il n'y a pas à se poser de questions. 100 000 morts, c'est énorme. Il faut penser... Enfin, voilà, on interroge. Moi, je n'ai pas la télé, mais je ne sais pas, est-ce qu'on a vu les parents des victimes, des gens qui sont morts? Est-ce qu'on leur donne la parole? Est-ce qu'ils ne veulent pas peut-être aller voir ce qui se passe et prendre ce médicament? Parce qu'il y a des tas de gens qui se battent depuis je sais pas combien d'années pour l'artemisia. Moi, c'est un truc que j'ai découvert quand je vous ai laissé le message. Et en fin de compte, c'est un truc qui est connu de tous, quoi. Donc on parle du paludisme.
Même l'OMS reconnaît l'artemisia comme remède efficace contre le paludisme.
Ben oui. Mais en attendant, on continue à faire des, on continue à vouloir faire un vaccin pour le paludisme, alors qu'il y a des tas de gens qui sont guéris chaque année grâce à cette plante. Donc on dit, c'est quoi le but en fait? C'est quoi? Le but, c'est l'argent. Le but, c'est l'argent.
Bonne question. On le voit aussi avec la polémique autour du vaccin, d'éventuels vaccins contre le coronavirus proposés par, recherchés par le laboratoire pharmaceutique Sanofi qui a déclaré il y a quelques jours que les États-Unis seront servis en premier. Merci beaucoup Vanda pour votre participation. Vanda qui s'étonnait pourquoi les pays occidentaux plus fortement touchés par cette maladie, le Covid-19, n'envoient pas des experts du côté de Madagascar pour examiner le Covid organique. 33 1 55 07 58 00, je demande à Mamadou et Fofana de patienter. On va écouter Déconfiné.
Oui, bonjour.
Bonjour Déconfiné, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous voulez parler, vous, un peu de la situation au Congo Brazzaville. Brazzaville, d'ailleurs, qui est, contrairement à vous, confiné.
Oui. Bon, mais je souhaite qu'il continue à être confiné. Bon, parce que j'ai constaté que tous les pays africains ont pratiquement plaqué calqué leurs mesures sur ce qui se passait en Europe, à peu près, quoi. C'était au même moment de confinement et eux aussi, ils déclenchent les confinements et puis maintenant, c'est les déconfinements en Europe et eux aussi, ils vont. Donc, c'est un peu de trucs calqués, quoi, sur le modèle européen, quoi. Mais moi, je souhaite que le confinement continue un tout petit peu là-bas parce qu'il faut encore observer quelques semaines parce que c'est l'Europe qui avait été confinée avant et puis, bon, ils ont essayé d'avoir quelques mesures un peu plus concrètes et puis ils arrivent au déconfinement progressivement. Donc voilà. Bon, mais moi, ce que je voulais dire, surtout pour le Congo-Brazzaville, moi, j'ai toujours une culture transversale, quoi. Essayer de comparer ce qui se passe de chez moi là-bas et puis d'autres pays aussi. Donc, je suis aussi d'autres chaînes nationales, au Cameroun, au Sénégal, au Burkina, et ainsi de suite. Mais j'ai constaté que vraiment le Congo, je ne sais pas s'il y a d'autres amis des autres pays aussi qui essaient de regarder notre chaîne, mais vraiment, ils reçoivent des dons. Des dons, vraiment des dons. Ils doivent être maintenant peut-être à 10 milliards de francs CFA, environ 6 millions d'euros à peu près, quoi. Donc, mais je me demande qu'est-ce qu'ils font de ces dons-là. C'est très, très mal dispatché, vraiment. Il y a, excusez-moi vraiment du terme, mais en fait, c'est la réalité. Il y a l'ethnocentrisme qui continue même pendant même cette crise sanitaire, quoi. Il ne peut pas dispatcher les dons comme il se doit. Les lieux où c'est plus peuplé, les lieux où il y a plus de gens. Donc voilà, tout part dans les petits coins. Et chaque semaine, à chaque journal du soir, on parle de... Le député est allé distribuer les vivres là-bas. L'interministre est allé distribuer les vivres là-bas. C'est toujours dans les mêmes coins, pour ne pas nommer les coins. Mais tous les Congolais sont tous des citoyens de ce pays.
J'allais dire, tu imagines que c'est du côté de Oyo?
Sur le mont Oyo, Olombo, le parti nord, même quand on voit la construction des routes, il y a des routes qui desservent les parties forestières, vraiment, avec quelques petites centaines d'habitants. Alors les grands axes où il y a des vrais rubans de peuplement, on ne peut pas bitumer. Les axes Kinkala, Matumbu, Kibwende, Madia, Kindamba, tout ça, Muyondi, Vinda, tout ça. C'est des grands rubans de peuplement, mais malheureusement. Voilà, ça, c'est ça la réalité. Donc, je demande que les chers Africains essaient d'aller jeter un petit coup d'œil s'ils ont le temps dans les informations qui se passent sur la scène nationale du Congo. Bon, ils verront comment les dons affluent sur le pays.
Les entreprises,
les particuliers, les communautés, toutes les communautés étrangères presque. Les Ouest Africains, les Mauritaniens, les Marocains, les Yéménites, les Indiens, tous donnent vraiment des 100 millions, 150 millions de francs CFA, tout ça. Donc, mais la distribution vraiment ne suit pas. Je ne sais pas s'ils vont encore mettre ça dans leur poche et s'ils vont essayer d'éponger ou bien de couvrir un peu la dette de l'État. Je ne sais pas. Je me demande ce qui se passe avec cet argent, quoi.
On se souvient, merci des confinés, on se souvient que, à confirmer, il me semble que ça a été confirmé, que le don du milliardaire chinois Jack Ma, arrivé à Brazzaville, avait été détourné par quelques officiels. Merci beaucoup des confinés qui s'interrogeaient sur l'utilisation des dons au Congo-Brazzaville. Dans l'ordre d'arrivée, Mamadou, bonjour. Non, pardon, Fofana, bonjour. Fofana.
Allô.
Bonjour Fofana. C'est Fofana ?
Bonjour Stéphane, oui.
Oui. Bienvenue, Fofana. Vous voulez parler de quoi ?
Oui, je voulais parler sur le virus en Côte d'Ivoire, la manière que le gouvernement a travaillé dessus.
Voilà, je voulais remercier le gouvernement parce que hier on s'attendait que peut-être qu'il va libérer.
Les maquis vont réouvrir les restaurants aussi.
Voilà, et c'est bon. Ouvert, c'était bien, mais à bien soit vraiment séparé à les autres. Vraiment, c'est ce qui m'a plu. Je remercie vraiment le gouvernement, le travail qu'il est en train de faire. Faut pas qu'il va s'envoler pour dire que vraiment libéré, comme Ghana a fait aujourd'hui, il a appliqué 5 000 cas au Ghana, vraiment. L'Abidjan soit vraiment toujours verrouillé comme ils ont commencé et jusqu'à fin du mois ou début du mois prochain. Vraiment, c'est ce que je souhaitais. Mais mon frère qui a passé tout à l'heure, qui l'a maigri, vraiment, je lui dis bonne guérison. Vraiment, il n'a qu'à prendre beaucoup de médicaments. Il a encore peut-être 6 mois que Ouattara quitte au pouvoir. Mais celui qui va venir, j'espère qu'il va manger très bien. Je lui souhaite bonne guérison. C'était mon contribution, madame.
Merci beaucoup, Fofana, de votre contribution à cette émission. On arrive à la fin de l'émission. Je suis désolée, hein, on n'a pas le temps de prendre Mamadou Kanté et Christophe là, qui essayaient de nous joindre. Messieurs, je vous invite à laisser vos messages sur le répondeur d'Africa Radio. Le numéro, c'est le 33 1 55 07 58 05. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas, envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux, la page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs, le compte WhatsApp aussi d'Africa Radio. Voilà, on se retrouve lundi pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Je vous propose lundi peut-être de parler des lendemains d'élections municipales au Bénin. En attendant, prenez grand soin de vous et des autres à l'écoute d'Africa Radio, la seule, l'unique et la vraie radio africaine. Bon week-end. We'll be right back.